Bonjour à toutes et à tous, Christophe Julien pour vous accueillir dans l'émission La Pierre à Ancre, émission de Radio Grand Ciel entièrement dédiée, consacrée au haïku, ce petit poème d'origine japonaise, mais qui désormais a volé de ses propres ailes bien au-delà de l'archipel nippon, est aujourd'hui pratiqué dans le monde entier. Ce petit poème de la Tainakanif a le tranchant plus redoutable que celui d'un sabre de samouraï. Je vais encore aujourd'hui vous en apporter la preuve en complétant la chronique de Dominique Chipot consacrée, je vous le rappelle, tout au long de cette année au réformateur du haïku à l'orée du XXe siècle, Masao Kashiki. Je vais compléter cette chronique de Dominique Chipot par justement une lecture des poèmes, des haïkus de Masao Kashiki. Je les ai extraits d'un excellent livre publié aux éditions Mundaren, Le mangeur de kaki qui aime les haïkus, Shiki. C'est un livre relié à la chinoise, absolument magnifique. Je tiens à saluer aussi ici le travail effectué depuis de très nombreuses années par les éditions Mundaren pour faire connaître à la fois la poésie chinoise et la poésie japonaise, singulièrement le haïku. Voici quelques haïkus de Masao Kashiki. Extrait de Le mangeur de kaki qui aimait les haïkus. Sur l'épaule nue du grand Bouddha, la neige a fondu. Sur l'épaule nue du grand Bouddha, la neige a fondu. Jour de brume, me rasant la barbe, la cloche d'Ueno. Jour de brume, me rasant la barbe, la cloche d'Ueno. Me retournant pour voir l'homme que j'ai croisé, le brouillard. Me retournant pour voir l'homme que j'ai croisé, le brouillard. Dans le corridor, rangé le long de la balustrade, les montagnes au printemps. Dans le corridor, rangé le long de la balustrade, les montagnes au printemps. Une hotte d'herbe laissée là. Personne. La montagne au printemps. Une hotte d'herbe laissée là. Personne. La montagne au printemps. Le grand Bouddha somnole, somnole, journée de printemps. Le grand Bouddha somnole, somnole, journée de printemps. Un sou pour sonner la cloche. La brume de midi. Un sou pour sonner la cloche. La brume de midi. Du riz aux haricots rouges en train de cuire, la vapeur réchauffe la petite échoppe de campagne. Du riz aux haricots rouges en train de cuire, la vapeur réchauffe la petite échoppe de campagne. Des pots de fleurs bien alignés chez le coiffeur. Des pots de fleurs bien alignés chez le coiffeur. Terrible! Des pierres s'écroulent du mur. Les chats en chaleur. Terrible! des pierres s'écroulent du mur, les chats en chaleur. Tendou, les murs blancs alignés le long de la crique. Tendou, des murs blancs alignés le long de la crique. Une petite barque fait le tour d'un grand bateau, journée de printemps. Une petite barque fait le tour d'un grand bateau, journée de printemps. Une barque devise avec la rive, longue journée. Une barque devise avec la rive, longue journée. Je longe la rivière, aucun pont pour traverser, longue est la journée. Je longe la rivière, aucun pont pour traverser. Longue est la journée. Voici à présent des haïkus d'été, toujours, bien sûr, de Masaoka Shiki. Au chant des cigales, prenant mon bain, le cri du marchand de tofu. Au chant des cigales, prenant mon bain, le cri du marchand de tofu. Les cris bigarrés des marchands cessent. À midi, les cigales. Les cris bigarrés des marchands cessent. À midi, les cigales. À côté du débarcadère, un petit quartier de maisons closes. Les cotonniers en fleurs. À côté du débarcadère, un petit quartier de maisons closes, les cotonniers en fleurs. À l'étage, à un sampan fait signe, un éventail. À l'étage, à un sampan fait signe, un éventail. Après avoir tué la mouche, un moment de paix dans la petite chambre. Après avoir tué la mouche, un moment de paix dans la petite chambre. Les croupes alignées des chevaux efflanqués. Quelle chaleur! Les croupes alignées de chevaux efflanqués. Quelle chaleur! Une houe dressée, personne alentour. Quelle chaleur! Une houe dressée, personne alentour. Quelle chaleur! Sur le chemin de campagne, des garçonnets bâtonnent un serpent, la moisson du blé. Sur le chemin de campagne, des garçonnets bâtonnent un serpent, la moisson du blé. À la porte d'une maison devant laquelle sèche du blé, un vieux store en bambou. À la porte d'une maison devant laquelle sèche du blé, un vieux store en bambou. Au soleil couchant, sur le chanvre fauché, une averse de passage. Au soleil couchant, sur le chanvre fauché, une averse de passage. Dans l'odeur du poisson, le village de pêcheurs danse sous la lune. Dans l'odeur du poisson, le village de pêcheurs danse sous la lune. Rien que des hommes, et au milieu, une femme. Quelle chaleur! Rien que des hommes, et au milieu, une femme. Quelle chaleur! Les mains pleines de palourdes, rayonnant de joie, il appelle son copain. Les mains pleines de palourdes, rayonnant de joie, il appelle son copain. Et ce dernier haïku coup d'été. Derrière une haie d'hibiscus, une petite échoppe de sandales en paille. Derrière une haie d'hibiscus, une petite échoppe de sandales en paille. À présent, l'automne. La mouche d'automne. Toutes les tapettes à mouches sont cassées. La mouche d'automne. Toutes les tapettes à mouches sont cassées. J'allume la lampe. La lumière n'a pas de force. Soirée d'automne. J'allume la lampe, la lumière n'a pas de force. Soirée d'automne. Un grillon, là où le chien est enterré, dans un coin du jardin. Un grillon, là où le chien est enterré, dans un coin du jardin. Le petit couteau taille les crayons, pèle les poires. Le petit couteau taille les crayons, pèle les poires. Le petit tambour tombe de son socle. Tempête d'automne. Le petit tambour tombe de son socle. Tempête d'automne. La grande porte du temple qu'on ferme grince. Crépuscule d'automne. La grande porte du temple qu'on ferme grince. Crépuscule d'automne. Et voici un des haïkus les plus fameux de Masao Kashiki. Cueillant des champignons, ma voix devient le vent. Cueillant des champignons, ma voix devient le vent. Et voici pour finir de Masaoka Shikide Haïku d'hiver. Devant la porte de la maison déserte, un chien endormi, les feuilles des saules se dispersent. Devant la porte de la maison déserte, un chien endormi, les feuilles des saules se dispersent. La lampe du voisin éclaire le bananier. La lampe du voisin éclaire le bananier. La lampe de la chambre voisine s'est éteinte aussi. Nuit froide. La lampe de la chambre voisine s'est éteinte aussi. Nuit froide. Des feuilles mortes venues d'ailleurs. Fin de l'automne. Des feuilles mortes venues d'ailleurs. Fin de l'automne. Contemplant un portrait de Bachot, Shiki écrit « Moi devant l'âtre, toi en pèlerinage, t'éloignant. Moi devant l'âtre, toi en pèlerinage, t'éloignant. » Solitude dans l'âtre, Chris. Des éclats de bois enneigés. Solitude dans l'âtre Chris, des éclats de bois enneigés. Un chat errant en train de fianter le jardin en hiver. Un chat errant en train de fianter. Le jardin en hiver. Le pinceau est usé, l'écriture floue, mon journal en hiver. Le pinceau est usé, l'écriture floue, mon journal en hiver. La rivière en hiver, les canards viennent becquer. Les épluchures de légumes. La rivière en hiver, les canards viennent becqueter les épluchures de légumes. Désolation hivernale. Je traverse un hameau, un chien aboie. Désolation hivernale. Je traverse un hameau, un chien aboie. Et ce dernier, le jeune moine solitaire sonne la cloche, nuit froide. Le jeune moine solitaire sonne la cloche, nuit froide. Voilà, c'est terminé. Pas pour Masaoka Shiki, puisque je cède la parole à Dominique Chipot. Notre ami Dominique Chipot, qui, tout au long de cette année, va nous parler de la réforme engagée par Shiki, la réforme du haïku, au début du XXe siècle. Excellente fin de journée à toutes et à tous, et on se retrouve bien évidemment dans un mois pour une nouvelle édition de La Pierre à Encre.
Shiki et la notion de dessin objectif. Shiki poursuit son analyse critique du haïku. Il s'interroge sans cesse et... Au contraire d'un maître d'une kesha qui impose sa doctrine à ses disciples, il argumente ses décisions et ses choix et invite les autres poètes à se questionner sur leur pratique poétique. Après son dialogue sur le haïku, il publie en juillet-août 1896 « Mon haïku » ou « Waga haïku », une série d'articles dans lesquels il développe deux nouveaux points. Les normes de la beauté dans le cadre d'observations objectives ou subjectives et l'évolution avec le temps des critères qui lui paraissent essentiels pour le haïku. Il dit à ce propos : Au début, Je m'employais à exprimer la beauté des choses telle que je la ressentais et, en lien avec cette réalité, j'exprimais aussi les conséquences de ce ressenti. Peu à peu, prenant conscience de la superficialité de mes propos, j'en suis venu à n'exprimer que la réalité des choses sans dire expressément mes impressions. Il affirme ensuite que le réalisme a finalement plus d'importance que l'imagination, preuve qu'il est efficace de se libérer du poids des anciens. Et il ajoute, le réalisme a grandement contribué à faire évoluer le goût des poètes. De la complexité, nous en sommes progressivement venus à la simplicité. Reconnaissant avoir ainsi évolué dans sa manière de percevoir et de restituer la réalité, il dit avoir été secoué à la manière d'un pendule. Balancez-le fermement vers la droite, il revient invariablement vers la gauche. Faites-le osciller plusieurs fois de gauche à droite, il revient finalement à sa position initiale. Ainsi, explique-t-il, c'est comme si un jour le réalisme m'attirait au mépris de la fantaisie, ou comme si les choses émouvantes m'attiraient plus que celles délicatement élaborées. L'année suivante, en 1897, dans La corbeille au vieux papier de Haikai, il s'interroge sur le rôle de l'écrivain et la façon de transposer fidèlement la réalité dans les haïkus. Le rôle d'un poète est de trouver puis de présenter harmonieusement la beauté cachée de toute chose, naturellement présente sous forme désordonnée dans l'univers, ce mélange complexe de beauté et de laideur. Par conséquent, même pour composer une scène réelle, il n'y a pas d'autre choix que de prendre seulement ce qui est beau et d'écarter ce qui est vilain. Pour cette raison, la réalité de la scène peut être légèrement modifiée par l'ajout d'éléments étrangers. Une telle déclaration remet en cause le croquis strictement objectif. Plutôt de composer une scène telle qu'elle apparaît, il est plus important d'en croquer une vue idéalisée par un changement de position ou l'incorporation d'objets externes. Et voici que la notion de réalisme devient malléable. Conscient de l'impossibilité de copier objectivement la nature dans tous ses détails, Shiki admettait donc l'idée, pour juger la pertinence d'un haïku, de mettre l'accent à la fois sur la situation réelle et sur le travail de l'auteur. Bon goût et bonne sensation, pourrait-on dire. Plus tard, dans son écrit « Le monde du haïku de la 29e année de l'ère Meiji », il a confirmé qu'il y a aussi plus ou moins de sélection dans l'authenticité d'un croquis sur le vif. Ainsi élargit-il la notion de dessin d'après nature. Quand Shiki a commencé cette étude des haïkus de nouvelle tendance de l'année 1896, il a remarqué une évolution notable dans les caractéristiques du haïku. Il y a une diversité jamais vue jusqu'à présent, sans commune mesure avec la profondeur de Basho, l'humour de l'école d'Anrin, la grâce plaisante de Busson ou Kyotai, l'exquise fraîcheur de Shirao ou Ranko. Puis il cite des haïkus de son ami et disciple Ekigoto, dont il souligne la netteté de l'impression. La particularité de Ekigoto, dit-il, c'est la création de haïkus où règne une impression très claire. Cette impression claire qu'un être peut apprécier dans un poème, et cette sensation de voir la scène réelle se jouer sous ses yeux. Par conséquent, le fait de pouvoir s'approprier et de contempler cette petite peinture d'après nature, c'est comme avoir les mêmes sensations que l'auteur. Akai Tsubaki, Shiroi Tsubaki, To Ochi Nikkei. Chute les fleurs de camélia rouge, de camélia blanc. Au sujet de ce haïku de Kigoto, Shiki remarque: pour réaliser une telle peinture à l'huile sur un petit cadre, il suffirait de croquer des fleurs rouges et des fleurs blanches de camélia tombées sur le sol les unes à côté des autres. Et ce que l'on ressent à contempler la scène de ce poème ne doit être que beauté. Que le camélia pousse dans un jardin ou au bord d'un chemin de montagne, le poème ne doit le dire que si c'est un élément d'importance. Et Shiki nous apprend ensuite que la netteté de l'impression est l'une des forces de la peinture, et si vous écrivez un haïku avec une impression claire, indéniablement, il sera aussi imagé que possible. Poursuivant son analogie avec la peinture, il a affirmé qu'en raison du caractère condensé de la poésie haïku, le haïjin ne peut s'inspirer des peintures complexes et élaborées, mais doit apprendre des peintures simples et claires. Toutefois, il note une différence majeure entre les deux arts. D'un côté, la peinture qui est de nature spatiale, et de l'autre, le haïku qui est plutôt temporel. Et comme le haïku est trop court pour intégrer simultanément des notions d'espace et de temps, ce qui est possible mais difficile de son point de vue, il préconise de choisir l'un ou l'autre. Prenons des haïkus d'Ekigoto pour illustrer ces trois genres. Le premier dessine l'espace. Haru samushi, mizuta no oe no, ninashi gumo. Froid printanier, au-dessus des rizières, un nuage s'enracine. Le second arrête le temps. Gakuzen toshite, ilune sametaru, itori kana. Étonné, je me retrouve après un somme, tout seul. Et le troisième, saisit un instant dans l'espace. Ku o asamo, kanishi ni oruya, mine no kumo. Un crabe mort a saisi le ciel, crête de nuages. Ensuite, Shiki analyse les haïkus de Kyoshi. À suivre.
Il faut toujours se dire adieu et devant les jardins désert, se regarder partir, ramasser le mouchoir qui tombe à terre et tourner le dos. Il faut toujours se dire adieu, remettre son sort entre les mains de Dieu. Parce qu'on sait pas toujours quand l'avion se pose et qu'on a peur de perdre et peur de rater quelque chose. Parce qu'on sait pas toujours quand l'avion se pose et qu'on a peur de perdre et peur de rater quelque chose. Et qu'on a peur de perdre et peur de rater. On ne sait pas toujours quand l'avion se pose et qu'on a peur de perdre, de peur de rater quelque chose. Parce qu'on ne sait pas toujours quand l'avion se pose et qu'on a peur de perdre, de peur de rater quelque chose. Et qu'on a peur de perdre, de peur de rater quelque chose. Son sort entre les mains.